Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Le Premier ministre polonais Donald Tusk arrive à Prague. La publicité va partiellement disparaître de la télévision publique à partir de décembre prochain. Un marché français a été ouvert ce jeudi à l'occasion de la fête nationale française sur l'île pragoise de Kampa. Le Premier ministre de la République de Pologne, Donald Tusk, effectuera vendredi une visite en République tchèque. Ses entretiens avec le chef de l'État Václav Klaus et son homologue tchèque Petr Nečas seront principalement consacrés aux questions européennes dans le contexte de la présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne qui a commencé le 1er juillet dernier. Donald Tusk et ses partenaires tchèques devraient notamment discuter des préparatifs du sommet pour le partenariat oriental qui aura lieu les 29 et 30 septembre à Varsovie. Le futur élargissement de l'Union européenne à la Croatie ainsi que des questions bilatérales devraient également être abordées. Donald Tusk se fera accompagner à Prague par les ministres polonais de la Défense, de l'Infrastructure, du Développement du Territoire ainsi que du vice-ministre de l'Économie en charge de l'Énergie. Dans tous ces domaines, nous voudrions renforcer notre collaboration, a indiqué le porte-parole de la présidence polonaise de l'Union européenne, Konrad Niklevich. La publicité va partiellement disparaître de la télévision tchèque à partir de décembre prochain. Selon l'amendement à la loi sur la télévision tchèque approuvé mercredi par la Chambre des députés, Česká televize ne pourra plus diffuser de spots publicitaires que sur deux de ses quatre chaînes, à savoir ČT2 et ČT4, ses chaînes culturelles et sportives. En revanche, la publicité sera interdite sur la chaîne généraliste ČT1 et la chaîne d'information continue ČT24. L'argent de la publicité sur ČT2 servira à alimenter le Fonds national de la culture, tandis que celui récolté du ČT4 servira à financer la production des programmes sportifs. Les spots diffusés sur ces deux chaînes représenteront 0,5% du temps total de diffusion quotidien. Un marché français a été ouvert ce jeudi à l'occasion de la fête nationale française sur l'île pragoise de Kampa. Une vingtaine de stands proposent à la vente vin, fromage, charcuterie, crêpes et autres spécialités françaises, et ceci jusqu'au 17 juillet prochain. L'ambassade de France a indiqué à l'agence Cheteka que cette année, le marché était l'occasion de célébrer l'inscription de la gastronomie française au patrimoine mondial de l'UNESCO. Deux concerts exceptionnels attendent le public tchèque ces jeudi et vendredi dans le cadre du festival Prague Proms qui se tient du 21 juin au 23 juillet prochain. Pour la première fois de sa carrière, le célèbre compositeur italien Ennio Morricone sera à la baguette en République tchèque et ce dans la salle Smetana de la maison municipale. Ennio Morricone, réputé notamment pour ses musiques de films, en particulier celles composées pour le réalisateur Sergio Leone. Ennio Morricone dirigera à Prague l'orchestre symphonique tchèque et le chœur philharmonique tchèque de Brno. Ostrava accueille à partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche les 8e championnats d'Europe Espoir d'athlétisme. Un millier d'athlètes de moins de 23 ans, hommes et femmes confondus en provenance de 50 pays, participent à la compétition. L'équipe de République tchèque est composée de 35 athlètes. Parmi les participants figurent notamment 4 champions d'Europe en salle sacrés chez les seniors à Paris en mars dernier. Côté météo, vendredi, jour de la fête des Jindřich, les nuages se partageront le ciel en République tchèque. Les températures seront comprises entre 20 et 24 degrés. Elles devraient remonter au cours du week-end. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Rosinkova à la suite du programme avec Alexis Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague et vous avez bien raison. Merci à Magda pour ce bulletin d'information. Magdalena Hrozinková, que vous retrouverez dans une dizaine de minutes pour la rubrique touristique. Elle nous emmènera à Brno en Moravie. Mais avant, on parlera d'un programme de formation de pilotes afghans et américains en République tchèque, à Pardubice plus exactement, une formation sur des hélicoptères de type Mi-17. Et puis nous parlerons des 60 ans depuis que le rideau de fer est devenu une réalité en Tchécoslovaquie. Ce sera avec Pierre Maignan. Où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite une très agréable écoute de ce programme. À partir du mois d'août, des pilotes afghans et américains vont suivre une formation à Pardubice en Bohême de l'Est pour apprendre à manœuvrer des hélicoptères de type Mi-17 de fabrication russe. Le projet, estimé à plus d'une dizaine de millions d'euros, est financé par les États-Unis. les derniers soldats étrangers à avoir été formés ici par l'armée nationale, à l'époque l'armée tchécoslovaque, étaient des militaires israéliens à la fin des années 40. Cet été doit commencer un programme de formation auquel vont participer environ 360 militaires, en majorité afghans. L'armée afghane dispose de 12 hélicoptères russes Mi-17 et Mi-24 fournis par la République tchèque. C'est sur ce type d'appareil que seront donc formés les participants au programme. Un tiers de ces participants seront des soldats américains. Yiri Chedivi est l'adjoint du ministre de la Défense.
Les Américains qui seront formés chez nous deviendront eux-mêmes des formateurs par la suite.
C'est la société publique tchèque LOM Praha et sa filiale de formation aérienne qui sont chargés de cette formation payée par la partie américaine. Interrogée par la télévision publique, la porte-parole de cette société, Martina Fischerova, a tenu à rassurer ceux qui pourraient craindre le séjour de militaires afghans sur la base.
Tous ceux qui seront formés ici ont été sélectionnés et ont fait l'objet de diverses vérifications. Nous travaillons en collaboration avec la police des étrangers, donc au niveau de la sécurité, l'ensemble du projet a été validé.
À Pardubice, la population qui habite près de l'aéroport redoute surtout les nuisances sonores, comme l'explique Jiří Hájek. Il est le maire de cet arrondissement de Pardubice, déjà habitué au survol d'avions de chasse.
Le problème le plus important est lié à ces hélicoptères qui volent plus lentement. Par conséquent, la nuisance sonore dure au moins une minute, voire deux.
Des vols nocturnes sont en outre envisagés, au moins une heure pour chaque pilote, selon Martina Fischerova. Pour l'instant, le contrat de formation est prévu pour durer 2 années, avec une probable reconduction. Les militaires tchèques forment déjà des pilotes afghans sur l'aéroport de Kaboul. Il y a, rappelons-le, à ce jour 720 soldats tchèques sur le sol afghan, dont la majorité se trouve dans la province de Logar. Et c'est là que l'un d'entre eux a été blessé ce mercredi lors d'une patrouille. Le même jour, 5 soldats français ont été tués dans un attentat suicide dans le nord du pays. Suite des faits et événements avec un peu d'histoire maintenant. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill avait évoqué l'existence d'un rideau de fer s'étant abattu sur l'Europe. La logique de la division du monde en 2 blocs idéologiques était engagée. En juillet 1951, avec l'adoption de la loi sur la protection des frontières, ce rideau de fer devenait une réalité tangible en Tchécoslovaquie, pour longtemps ancré au monde communiste depuis le coup de Prague de février 48. Ce sont ainsi près de 3500 km de frontières qui ont été sécurisées, en priorité celles partagées évidemment avec l'Allemagne de l'Ouest et avec l'Autriche. Pierre Maignan.
C'est à l'université de Fulton, aux États-Unis, en 1946, que Winston Churchill avait prononcé un discours devenu célèbre, qui anticipait la division de l'Europe et du monde en 2 entités idéologiques. Il constatait ainsi.
From Stettin, in the Baltic, to Trieste, in the Adriatic.
De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale, Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Toutes ces villes célèbres et leurs populations appartiennent désormais à ce qu'il convient d'appeler la sphère d'influence soviétique.
Dans le cas tchécoslovaque, cette fermeture quasi totale au monde occidental se concrétise le 11 juillet 1951, il y a donc précisément 60 ans de cela, lorsque l'Assemblée nationale adopte la loi sur la protection des frontières. Il s'agit de stopper la migration de nombreux Tchèques et Slovaques depuis l'instauration, en 1948, du régime communiste dirigé par le très staliniste Klement Gottwald. La loi stipule ainsi que l'accès à certaines parties du pays est interdite et ne peut être autorisé que sur autorisation spéciale. Historien aux archives de la sécurité de Brno, Pavel Vaniek revient sur le dispositif mis en place.
Il s'agissait avant tout d'un changement du système frontalier qui consistait d'une part en l'augmentation du nombre de gardes-frontières. Ils étaient environ 6100 en 1950, tandis que l'année suivante, on en comptait environ 18 000. D'autre part, les autorités avaient mis en place une zone interdite aux populations le long des frontières.
Cette zone interdite pouvait parfois s'étendre à quelques kilomètres au-delà de la frontière. Cette mesure contraint alors environ 4500 habitants à quitter leur domicile situé trop près de l'Allemagne de l'Ouest. Seules quelques villes plus importantes sont épargnées par ce délogement, trop cher économiquement et politiquement. Pour lutter contre les migrations, outre l'augmentation du nombre de gardes-frontières, ceux-ci sont autorisés à ouvrir le feu sur tout individu qui tenterait de franchir la frontière ou qui se trouverait dans la zone interdite sans autorisation. À partir de 1953, une clôture électrifiée vient s'ajouter au dispositif et l'on estime à 145 le nombre de personnes tuées entre 1951 et 1989 en ayant tenté de rejoindre la République fédérale allemande ou l'Autriche. 16 de ces individus furent considérés comme suicidés. Aussi, il n'est pas étonnant que les gardes-frontières souffrent aujourd'hui d'un véritable déficit d'image, qu'avait bien illustré en 2007 la polémique autour de la tentative du Club des régions frontalières d'ériger un monument en l'honneur de cette profession. Karel Janda est le président de ce club qui compte encore d'anciens gardes-frontières parmi ses membres. Il regrette quelque peu cette mauvaise réputation qu'il décrit de la façon suivante.
Au niveau de la nation, les gardes-frontières sont aujourd'hui généralement perçus et présentés comme des gens qui ont été des oppresseurs, des gens qui ont fait partie du système répressif, comme des gens qui ont assassiné.
Pour Karel Janda, cette présentation peu flatteuse cache le fait que les gardes-frontières faisaient partie d'un système qui les dépassait et contre lequel certains d'entre eux se sont battus. Dans le massif de Šumava, par exemple, à la frontière avec la Bavière, de nombreux contrebandiers sévissaient avec parfois le soutien actif de gardes forestiers. La légende populaire en a fait des héros et les a surnommés les rois de Šumava. Certains d'entre eux ont joué un rôle de passeurs et ont aidé certains fugitifs à rejoindre l'Allemagne de l'Ouest. 60 ans après le repli de la Tchécoslovaquie sur le monde soviétique, alors que les frontières sont désormais complètement ouvertes, les stigmates du passé ne sont pas encore totalement oubliés.
C'est déjà la fin de cette émission Faits et événements, mais ce n'est pas la fin du programme en français de Radio Prague. On poursuit comme deux fois par mois avec la rubrique très attendue du tourisme, la rubrique consacrée au tourisme. Aujourd'hui, dans ce magazine touristique, nous vous invitons à visiter une des plus belles villas Art Nouveau en République tchèque. Il s'agit de la maison familiale de l'architecte Dušan Jurkovič, construite au début du XXe siècle à Brno, en Moravie. Après une importante remise en état, la villa Jurkovič a été ouverte au public en avril 2011 pour la première fois de son histoire et c'est Magdalena Hrozinková qui l'a visitée.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
No, v podstatě treláže jsou i zde. A tady se bude pnoucí víno. Možná to bude i na drobné vinobraní potom.
Bonjour, nous sommes à Brno dans un jardin très agréable qui entoure la villa de l'architecte Dušan Jurkovič. C'est un lieu de détente ouvert même aux simples passants qui ne veulent pas forcément entrer dans la villa. Mais celle-ci mérite résolument une visite. Avant de pousser ses portes, en compagnie de notre guide Olga Butseva, une petite parenthèse historique. Dušan Jurkovič et Jan Kotěra, ce sont les deux personnalités et deux amis qui ont le plus influencé l'architecture tchèque au tournant des 19e et 20e siècles. Jurkovič, lui, était d'origine slovaque. Il est né en août 1868 dans le village de Tura Luka, en Slovaquie occidentale, dans une famille de juristes. Lui-même, ses trois sœurs et trois frères ont baigné dans une ambiance fort patriotique. Marqué dès son enfance par l'art populaire, Jurkovič entre en 1889 à l'école des arts décoratifs de Vienne et dans les années qui suivent, il s'établit comme architecte notamment dans la région de Vsetín, en Moravie. C'est dans les montagnes locales, les Beskides, que le jeune Dušan Jurkovič réalise à la fin du XIXe siècle son premier grand projet, un complexe d'hôtels baptisé Pustevne. Ses constructions en bois, hautes en couleurs et inspirées de l'architecture populaire de Moravie, ont enthousiasmé le public. 100 ans après, les Pustevni sont toujours considérés comme un lieu touristique incontournable, non seulement dans les Beskides, mais de toute la Moravie. D'autres chefs-d'œuvre de Dušan Jurković de cette époque-là se trouvent un peu plus au sud, dont la station thermale de Lohačevice. Il s'agit notamment de la maison Jurković, une maison à colombage rouge et blanche, servant d'hôtel et de lieu de cure thermale. À l'aube du XXe siècle, Dušan Jurković arrive à Brno où, à l'époque, les intellectuels et entrepreneurs tchèques ont commencé à concurrencer l'élite allemande. Il y signe une reconstruction très réussie d'une école et d'un pensionnat pour jeunes filles. Jurković devient alors membre d'un important cercle artistique et littéraire de Brno, formé autour du directeur de cette école, František Mareš. C'est donc à Brno, dans le quartier de Žabovřeské, rattaché à la ville en 1919, que Dušan Jurković choisit de s'installer et de construire une maison familiale, une villa qui sera donc elle-même une œuvre d'art, un lieu d'exposition et aussi de rencontre du cercle artistique déjà cité, dont les membres étaient par exemple le compositeur Leoš Janáček, les peintres Joža et Franta Uprka, Max Švabinský, le sculpteur Jan Štúrza ou encore les écrivains Alois et Wilhelm Mrštík. Žabovřeské est un coin très agréable et reposant de Brno. C'est un quartier résidentiel situé sur les collines verdoyantes et à proximité de la rivière Svratka. À deux pas de la villa se trouve le stade de Rosnička, un lieu privilégié des athlètes professionnels et amateurs de Brno depuis les années 1920. Olga Butsiova, guide dans la villa Jurković, explique pourquoi le choix de l'architecte s'est porté sur cet endroit-là.
V té době tohle byla jedna vůbec z prvních vil, která zde vznikla, nebo vůbec první vila.
La villa de Dušan Jurković a été la toute première à avoir été construite ici. L'épouse de l'architecte avait acheté une vaste parcelle que le couple a ensuite revendue en plusieurs parties. C'était presque un projet de développement. Les époux Jurković avaient l'idée de fonder à Žabovřeské, une petite ville dans la forêt, un quartier d'intellectuels qui serait en même temps propice à des activités sportives. Jurković lui-même était un grand sportif. Il aimait les randonnées, il faisait de l'aviron, de l'alpinisme, du patinage. Ici, il pouvait pratiquer tous ces sports et en même temps il n'était pas loin du centre-ville.
Tady všechny tyhle ty možnosti měl vlastně a navíc to byl kousek do města.
La villa avoisinante située à l'ouest de la villa Jurković appartenait à la famille Kunz. C'est la deuxième villa qui a été construite ici, elle aussi selon le projet de Dušan Jurković. Mais comme vous pouvez le voir, cette maison-là est très discrète comparée à la façade presque excentrique de la villa Jurković.
Ale ten je tady opravdu velmi nenápadný. Porovnání tady s tou excentrickou fasádou.
Pour la construction de sa villa, Dušan Jurković s'est inspiré de l'architecture du cottage, de la maison de campagne anglaise. Colombage, encorbellement, fenêtres à petits carreaux, balcons et terrasses décorées en bleu, rouge et jaune donnent à la villa Jurković un caractère féerique. La façade principale a été ornée, et l'est d'ailleurs toujours, d'une mosaïque. Sauf que la mosaïque actuelle n'est pas celle d'époque, Olga Butsiova explique.
Autorem původní tedy předlohy byl Adolf Kašpar, ilustrátor Babičky.
La mosaïque originale avait été créée par Adolf Kašpar, connu pour ses illustrations du roman Babetchka de Božena Němcová. La mosaïque représentait les gardiens de la villa, le berger, le dragon, personnage d'un conte populaire. Les couleurs principales étaient le rouge et le jaune. La mosaïque en verre a été recouverte d'une couche métallique sous les rayons de soleil et la mosaïque brillait encore davantage. Ceux qui l'ont vue disent qu'elle était magnifique, surtout sous la lumière du soleil couchant. Mais cette mosaïque originale a été endommagée, puis enlevée dans les années 60. Dans le cadre de la rénovation de la villa, elle a été remplacée par une nouvelle mosaïque créée par un plasticien contemporain, Josef Bolf, dont les œuvres sont proches de la science-fiction et de la BD. Cette mosaïque moderne brille, elle aussi, mais uniquement la nuit, lorsqu'elle est éclairée par les lampes à diodes.
Ty LED diody, vlastně, když se rozsvítí v noci, tak vynikne teda ta kresba samotná.
À l'emplacement de l'ancienne cave à vin, de la chaufferie, du garde-manger et de l'appartement du concierge ont été aménagés l'accueil, le vestiaire et les toilettes. Pour les personnes handicapées, on a installé lors de la récente rénovation de la villa un ascenseur. Cette transformation de l'espace original a suscité des réactions controversées. À noter que dans les locaux souterrains se trouvait également un groupe électrogène. Car à son époque, la villa de Dušan Jurković était révolutionnaire à tout point de vue, équipée du chauffage central et d'un mécanisme ingénieux d'ouverture des fenêtres, et la même était électrifiée. Les lustres, qui se sont partiellement conservés jusqu'à nos jours, étaient adaptés à l'électricité et à l'éclairage au gaz. Par ailleurs, l'épouse de Dušan Jurković, Božena Bartelmusová, était la fille d'un propriétaire d'une grande entreprise électrotechnique de Brno, Olga Buciová.
Cette maison tenait beaucoup à cœur à Jurković. Il l'a conçue comme un exemple d'une habitation moderne, progressiste et en même temps modeste et économe. C'est donc une maison en bois, même si de l'extérieur elle ressemble à une maison en maçonnerie. La construction en bois est revêtue de dalles de liège. Entre les deux, il y a un mélange de sable et de chaux, ce qui devait assurer une bonne isolation.
La pièce principale de la villa était le hall central à deux étages avec une très belle charpente et une galerie en bois. Celle-ci donne sur l'ancien atelier de Jurković, la chambre d'hôte, le grenier et la terrasse où se trouve aujourd'hui entre autres un centre de recherche sur l'architecture ouvert aux spécialistes ainsi qu'au grand public et aussi un atelier de création destiné aux enfants. Au rez-de-chaussée, une bibliothèque, une chambre à coucher, une chambre d'enfant, une cuisine, une salle de bain et une chambre de bonne jouxtaient le hall central. Alors que dans les autres pièces sont exposées notamment des photographies et des meubles créés par Jurković pour différents châteaux et résidences, le hall, lieu de rencontres familiales et artistiques, a gardé son esprit original. Il a été aménagé et décoré avec des répliques du mobilier de l'époque et avec même quelques objets originaux qui se sont conservés. Olga Buciová.
Dispozičně vycházel Jurković z typu venkovské velké kotyče.
Ce hall à deux étages est typique pour le cottage anglais dont Jurković s'était inspiré. Ce qui est aussi typique pour ce genre d'habitation, c'est cette alcôve, un renfoncement aménagé dans le mur où l'on plaçait des lits et des canapés. Il paraît que c'était l'endroit préféré de la femme de Jurković, un endroit où elle recevait ses amis. Jurković, lui, aimait se réfugier avec ses invités dans ce coin à repas. Il est décoré par une copie d'une peinture originale sur papier avec un motif folklorique créé jadis par une femme peintre slovaque. Sinon, tous les objets d'art qui se trouvaient dans la villa étaient signés des amis de Jurković, issus du milieu artistique morave.
En
1919, Dušan Jurković, sa femme et leurs trois fils ont vendu la villa au comte Bedřich Horinský et ont déménagé à Bratislava. Ensuite, la villa a changé de propriétaire à plusieurs reprises pour être classée monument historique dans les années 60 et rachetée par l'État en 2006. Exploitée par la galerie Morave de Brno, elle a été rénovée entre 2009 et 2010 grâce à des subventions européennes et norvégiennes. Les visites guidées de la villa Jurković située rue Jana Nečase sont sur réservation. Entre avril et octobre, la villa est ouverte de mardi à dimanche de 10h à 18h. Entre novembre et mars, elle est accessible de jeudi à dimanche de 10 à 16h. L'entrée coûte 100 couronnes pour les adultes. Vous trouverez toutes les informations sur la villa et sur les manifestations qui s'y déroulent sur son site internet très détaillé en tchèque et en anglais. C'est au www.moravska-galerie.cz. cz/jurkovičova-villa. Ce site offre également la possibilité d'une visite virtuelle de la villa.
Merci à Magdalena Hrozinkova pour cette nouvelle rubrique touristique. C'est la fin du programme en français de Radio Prague. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. Alexis Rosenzweig au micro. À très bientôt.